Pour l'administration fiscale française, un lion de la savane, bah c'est juridiquement exactement identique à une vache normande.
C'est ça, oui. Et une maison préfabriquée, posée sur de simples parpaings, eh bien pour eux, elle possède des racines invisibles qui la lient au sol.
Ouais, c'est complètement fou. Et si on prête gratuitement un appartement à son propre enfant, bah ça génère un revenu imposable fantôme. Bienvenue dans l'univers parallèle de la jurisprudence fiscale.
Un monde très particulier, ouais, où la réalité matérielle passe vraiment au second plan, au profit d'une réalité, purement économique et conceptuelle, en fait.
C'est clair. Pour notre analyse du jour, on plonge dans une véritable montagne de décisions de justice et de synthèses juridiques françaises. Et notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de démontrer que le droit fiscal, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, une simple affaire de calculatrice.
Non, ni de formulaire CERFA interminable, hein.
Exactement. C'est pas juste des taux d'imposition ennuyeux. En fait, c'est un système de pensée d'une puissance redoutable. C'est une vraie machine philosophique qui redéfinit le monde réel, quoi.
Bah, le Code général des impôts, il dicte sa propre physique, sa propre biologie et sa propre définition de la propriété. Il fonctionne véritablement comme un prisme.
Un prisme, c'est-à-dire.
Bah, quand une situation humaine, même la plus absurde ou la plus illégale, traverse ce prisme, la loi sépare la lumière pour ne garder que le spectre économique.
Ah ouais, je vois.
Et les jugements qui en découlent, ils révèlent une logique implacable, même si c'est souvent totalement contre-intuitif quand on n'est pas averti.
Et justement, pour illustrer ce décalage total entre la réalité physique et la réalité fiscale, on va commencer par ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la possession.
Un vaste sujet.
Ouais. Et rien ne cristallise mieux cette illusion que l'argent liquide, surtout quand il s'agit de franchir des frontières. Le document de synthèse qu'on a épluché met en lumière l'article 1649A du Code général des impôts.
Tout à fait, celui qui encadre le transfert de fonds vers ou depuis l'étranger.
Voilà. Et la logique voudrait que l'impôt s'intéresse au moment où cet argent a été gagné. Mais en fait, pas du tout. Le fait générateur, l'élément déclencheur pour le fisc, c'est la douane.
C'est ça, la matérialité de la frontière, bah, ça devient le pivot central de la loi. Il y a un cas d'école très révélateur dans la jurisprudence.
Ah oui, l'histoire de l'autoroute?
Exactement. Un individu est contrôlé par les douanes avec une somme très importante en espèces, alors qu'il circule sur l'autoroute entre Metz et Thionville.
Donc géographiquement parlant, la voiture est encore incontestablement sur le territoire français.
Voilà. La frontière n'est pas encore franchie. Et toute la subtilité juridique réside dans l'interaction à cet instant ultra précis.
C'est dingue quand on y pense.
Ben oui, parce que si la personne déclare spontanément cet argent au douanier lors du contrôle, le Conseil d'État considère qu'elle est toujours dans son droit.
Elle est dans les temps pour remplir l'obligation déclarative, en gros.
C'est ça. Par contre, si elle nie détenir ses fonds et qu'on les trouve, la justice présume légalement qu'elle avait l'intention de franchir la frontière sans rien déclarer.
Donc le délit naît de l'intention dissimulée avant même d'avoir physiquement passé la ligne d'endouane.
Ouais, le fisc pénalise l'intention présumée sur la base d'un mensonge lors d'un contrôle anticipé.
C'est fascinant. Mais alors là où la notion de possession devient complètement surréaliste, c'est quand on regarde l'argent issu du trafic de stupéfiants.
Ah oui, l'affaire des 720 000 euros.
Oui, parce que pour que le fisc puisse taxer une somme, on apprend qu'il exige que le contribuable en ait la libre disposition. Et dans cette affaire spectaculaire, la police saisit exactement 720 920 euros en espèces chez un individu.
Une belle somme, oui.
N'importe qui se dirait, mais le fisc va immédiatement procéder à un redressement massif sur cet argent non déclaré. Or, contre toute attente, cet individu n'a pas payé un seul centime d'impôt sur cette montagne de billets.
0 euros, ouais.
Mais comment le droit peut-il justifier une telle clémence? Ça paraît absurde.
En fait, le juge de l'impôt s'est référé au principe de la réalité économique plutôt qu'à l'apparence, il s'est appuyé sur les conclusions du juge pénal.
Qui disait quoi, ces conclusions?
Eh bien, l'enquête a établi que ce suspect occupait un rôle, disons, subalterne. C'était un simple collecteur de fonds. Ses donneurs d'ordre, eux, étaient basés au Maroc.
Donc lui, il ne faisait que la logistique.
Exactement. Son travail, c'était de récupérer les billets, de les compter et de les conditionner. Donc il avait la garde matérielle de cet argent, la détention physique, mais il n'en avait absolument pas la libre disposition.
D'accord, je comprends plus.
Il ne pouvait pas puiser dans cette somme pour s'acheter un bien immobilier ou financer son train de vie, par exemple. Et l'impôt sur le revenu frappe un enrichissement personnel. Sans enrichissement, bah, il n'y a pas de matière imposable.
Donc taxer ce collecteur, ce serait taxer la mauvaise personne dans le réseau.
Tout à fait, c'est ça la logique.
Non mais attendez, c'est quand même une faille énorme. L'État renonce à imposer près de 750 000 euros issus du crime. juste parce que le suspect n'était qu'un intermédiaire. C'est comme si...
Oui, allez-y.
Ben, c'est comme si on tenait le manteau d'un ami au vestiaire avec 1 million d'euros dans la poche. On le tient physiquement, on le protège, mais on ne peut pas s'acheter une voiture de sport avec.
C'est une excellente analogie, oui.
Intellectuellement, c'est cohérent, d'accord, mais ça donne vraiment l'impression que le fisc respecte presque trop scrupuleusement l'organigramme d'un cartel de la drogue pour annuler un redressement, non?
C'est sûr que ça peut choquer, mais il faut comprendre que le droit fiscal se doit d'être amoral dans son évaluation. Il ne s'agit pas de punir un comportement, ça, c'est le rôle du pénal.
D'accord, l'impôt ne punit pas, il évalue.
Exactement, il évalue une capacité contributive. Si l'administration s'entêtait à taxer un simple exécutant sur des millions qu'il ne possède pas, le redressement serait fragile juridiquement et surtout impossible à recouvrir. La loi cherche le véritable bénéficiaire, même dans l'économie souterraine. C'est un peu l'état de droit poussé à son paroxysme de froideur, on va dire.
C'est fascinant. Alors, on vient de voir que le fisc peut totalement ignorer la matérialité de l'argent liquide. Mais que se passe-t-il quand l'objet physique est impossible à cacher, comme un bâtiment, par exemple ?
Ah, l'immobilier !
Oui, entrons dans ce qu'on pourrait appeler l'immobilier surréaliste. Parce que le Code civil, lui, il est limpide. L'article 128 dit que les biens qu'on peut transporter d'un lieu à un autre sont des meubles.
Oui, un lit, une voiture...
Exactement. Et pourtant, le juge fiscal s'affranchit régulièrement de cette définition.
Pour la taxe foncière, le fisc s'adresse plutôt à la notion d'ancrage et de permanence. Prenons les constructions modulaires, par exemple.
Les baraquements de chantier ou les mobil-hommes.
C'est ça. Les grands mobil-hommes posés sur des socles en béton dans les campings. Le Code civil y voit des meubles, parce que c'est préfabriqué, mais l'administration fiscale, elle regarde leur finalité.
Et quelle est cette finalité pour eux ?
Eh bien, si la structure n'a pas vocation à être déplacée régulièrement et qu'elle constitue une installation durable, elle est requalifiée en propriété bâtie imposable. L'intention de permanence prime sur la nature de la construction.
Donc, le droit fiscal octroie des racines invisibles à un mobil-homme.
C'est une belle façon de le dire, oui.
Fameux strac du loyer anormalement bas.
Ah oui, un grand classique des redressements.
Franchement, c'est hyper courant. Un parent laisse un appartement à la disposition de son enfant, gratuitement ou pour une somme dérisoire. Dans la vraie vie, on se dit « chacun est maître de son bien ».
Oui, mais l'administration fiscale débarque et qualifie ce geste de libéralité.
Et la conséquence laisse sans voix. Le fisc va évaluer la valeur locative normale sur le marché et ajouter ce loyer fictif, ce revenu qui n'a jamais existé, au revenu imposable du propriétaire. L'État invente un revenu ex nihilo juste pour taxer une forme de générosité familiale. C'est dingue.
Alors, ça paraît sévère, mais la justification réside dans le concept de l'abandon de recettes.
C'est-à-dire ?
Le droit fiscal part du postulat qu'un capital immobilier a une vocation naturelle à produire un revenu. C'est l'intention spéculative. Si un propriétaire renonce délibérément à ce revenu, sans motif économique, il accomplit un acte de disposition.
Il choisit de consommer la valeur du loyer en l'offrant à quelqu'un d'autre.
Voilà, c'est vu comme un avantage en nature. Pour préserver la neutralité fiscale, l'administration reconstitue la recette abandonnée. Sans ça, il suffirait de simuler des arrangements amicaux, de percevoir du liquide sous le manteau et de plaider la générosité pour échapper à l'impôt foncier.
Oui, mais vu comme ça, ça évite la fraude massive. Mais il n'y a pas des exceptions ?
Si, bien sûr. Il faut prouver la détresse financière profonde du locataire, par exemple, ou démontrer que cet abandon de loyer a pour seul but de faciliter l'expulsion rapide d'un occupant insolvable.
Donc la présomption de base, c'est que la gratuité cache une fraude potentielle. Mais ça soulève un autre paradoxe. Imaginons le cas inverse.
Allez-y.
Un appartement est désespérément vide. Le propriétaire ne perçoit aucun loyer, mais il doit payer ses charges, ses travaux, sa taxe foncière, et il souhaite déduire ce déficit foncier.
Oui.
L'administration va inévitablement le soupçonner de conserver le bien pour son propre usage ou de le prêter discrètement. Du coup, la jurisprudence exige que le propriétaire prouve avoir accompli les diligences suffisantes pour trouver un locataire.
C'est le terme exact, les diligences suffisantes.
Mais comment on prouve ça ? Faut envoyer au contrôleur fiscal des photos quotidiennes de l'appartement vide ?
Non, pas des photos, mais la charge de la preuve repose effectivement sur le contribuable. L'absence de locataire doit être subie, pas choisie.
Et concrètement, ça se traduit comment ?
Par une accumulation de preuves. La production de mandats de location confiés à des agences, la preuve de parution d'annonces payantes, des traces d'échanges avec des candidats qui ont refusé le bien.
D'accord, faut montrer qu'on a vraiment essayé.
Exactement. Et surtout, si le bien ne se loue pas, il faut la preuve d'une baisse graduelle et significative du loyer proposé pour s'adapter au marché. Sans ce faisceau d'indices, le juge considère que le bien n'est pas réellement offert à la location et hop, rejet de la déduction des charges.
Et en parlant de charges, la question des travaux est tout aussi épineuse, surtout quand on sort ses propres outils.
Ah, le bricolage!
Oui, le droit permet de déduire les dépenses de réparation. Un propriétaire qui fait lui-même ses travaux peut déduire les factures d'achat des matériaux. Mais pour le temps passé, les week-ends sacrifiés sur le chantier, la loi oppose un refus catégorique. La main-d'œuvre personnelle est évaluée à zéro.
Oui, parce qu'il y a un principe fondamental en fiscalité, on ne peut pas s'enrichir soi-même.
Mais c'est du travail quand même.
C'est du travail physique, certes, mais le temps consacré ne correspond à aucun décaissement réel, aucune charge financière supportée. C'est une simple substitution d'un effort physique à une dépense. Il n'y a pas de flux financier.
C'est rude pour les bricoleurs.
Le document de synthèse relève d'ailleurs une anecdote assez amusante là-dessus. Un tribunal de première instance avait tenté un jour d'évaluer forfaitairement cette main-d'œuvre personnelle à 3 fois le prix des matériaux.
Ah, pour augmenter le prix de revient et réduire la plus-value à la revente.
Exactement. Mais la décision est restée célèbre parce qu'elle a été foudroyée en appel. Elle allait frontalement contre la doctrine. Le juge supérieur a rappelé fermement que la sueur d'un contribuable n'est pas une devise reconnue par la comptabilité publique.
La sueur n'est pas une devise, c'est joliment dit. Mais si le simple effort personnel n'a aucune valeur fiscale, que se passe-t-il lorsque l'ampleur des travaux change d'échelle?
La frontière entre réparation et reconstruction.
C'est ça. C'est le théâtre d'une des règles les plus redoutées, le piège de la requalification. Parce que l'enjeu financier est colossal pour notre audience qui nous écoute.
C'est clair. Les dépenses de réparation ou d'amélioration sont immédiatement déductibles des revenus fonciers.
Alors que les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ne le sont pas. Elles s'ajoutent juste à la valeur du capital. Et c'est là qu'intervient cette terrifiante théorie de l'indissociabilité. Moi, j'appelle ça l'effet domino de la fiscalité.
C'est un très bon terme.
Une facture pour de la peinture, c'est innocent, c'est déductible. Mais si cette peinture est faite dans une pièce où on vient d'abattre un mur porteur, toute la liasse de factures est aspirée dans un trou noir fiscal, non?
C'est exactement ça. La règle est implacable. Le juge fiscal examine la finalité globale du chantier. Des travaux différents deviennent indissociables s'ils sont liés techniquement par un projet d'envergure.
Donc, la peinture perd son statut privilégié.
Voilà. Si la plomberie ou la peinture est rendue nécessaire par une restructuration lourde ou par une modification substantielle du gros œuvre, ces travaux sont absorbés, engloutis par la qualification globale de reconstruction.
Mais comment le juge de l'impôt parvient-il à s'improviser architecte pour évaluer ça? C'est ultra technique. Les sources citent l'exemple extrême du changement d'affectation, la transformation d'un vieil hôtel ou même, écoutez bien, d'une ancienne prison en appartement résidentiel.
Oui, un cas d'école très intéressant.
Mais comment on qualifie la plomberie dans une cellule de prison qui devient un studio?
Eh bien, le magistrat s'appuie sur des expertises factuelles, mais le critère juridique décisif, c'est l'altération de la destination initiale des locaux. Transformer un lieu de privation de liberté en logement, ça nécessite obligatoirement de repenser l'intégralité des volumes et des réseaux.
C'est un bouleversement fonctionnel total.
Totalement. Donc, sur le plan fiscal, ça équivaut à la construction d'un bâtiment neuf. Tout est requalifié en dépenses de reconstruction non déductibles.
Sans exception.
La seule exception majeure, c'est si le bâtiment d'origine avait déjà une forte vocation d'habitation. Par exemple, un vieil hôtel meublé. Là, on reste dans la continuité.
D'accord. Le juge fiscal redéfinit donc un mur de prison en fondation de construction neuve. L'ingénierie juridique sur le béton est impressionnante, mais ça prend une dimension encore plus vertigineuse quand on parle de la nature elle-même.
Ah, l'agriculture, mon sujet préféré.
La définition d'une activité agricole pour les impôts, c'est un chef-d'œuvre de biologie juridique. Le Graal pour avoir les exonérations, c'est de prouver qu'on participe au fameux cycle biologique.
Le Code général des impôts exige que l'activité participe de manière déterminante à l'évolution du cycle biologique, végétal ou animal.
L'élevage traditionnel, c'est évident, mais la justice a étendu ça de manière fascinante. L'affinage des huîtres en parc marin. Validé, la culture in vitro de mycélium pour produire des champignons, purement agricole.
Et la jurisprudence va plus loin. Elle intègre même les producteurs graniers qui sous-traitent le travail de la terre. Tant qu'ils gardent la propriété intellectuelle des semences et assument le risque climatique, le juge estime qu'ils participent au cycle biologique.
Pourtant, il y a une limite stricte face à l'industrialisation. Un vigneron qui récolte et transforme son propre raisin en vin, c'est agricole, car c'est le prolongement de la culture.
Oui.
Mais s'il achète du raisin à d'autres producteurs dans une proportion, disons, de 29%, tout l'édifice s'effondre.
Oui, l'activité perd sa nature agricole et bascule dans le commercial. Il suffit d'une proportion trop élevée d'entrants extérieurs pour que la biologie cède la place au négoce.
C'est très précis, mais le cas le plus retentissant de ce concept, c'est la saga juridique de la réserve africaine de Sigion.
Un revirement majeur du Conseil d'État, oui. Historiquement, ce parc animalier était considéré comme une entreprise strictement commerciale. Le modèle reposait sur la billetterie, les touristes. L'objectif, c'était le divertissement.
Et la haute juridiction a renversé cette analyse.
Complètement. Elle s'est concentrée sur la matérialité de l'activité quotidienne. Que fait la réserve de Sigion de ces journées ? Eh ben, elle nourrit des animaux, elle soigne des troupeaux, elle gère des naissances. Le cœur de son fonctionnement, c'est l'accompagnement d'un cycle biologique animal.
Le fait qu'il y ait des spectateurs payants ne modifie pas la nature de l'élevage.
Exactement. Le parc a donc été requalifié en exploitation agricole.
C'est une conclusion stupéfiante. Donc, pour la fiscalité française, un lion de la savane dans un parc touristique est traité, d'un point de vue statutaire, exactement de la même manière qu'un troupeau de chèvres dans le Larzac.
C'est ça, le statut est identique.
Mais ça crée pas des situations absurdes? Des entreprises géantes de la manipulation génétique ne pourraient-elles peu échapper à l'impôt commercial juste parce qu'elles manipulent des cellules vivantes?
Le juge a anticipé ça. Il a introduit la limite de la proportionnalité des moyens techniques.
C'est-à-dire?
Si une entreprise déploie des installations industrielles massives qui écrasent totalement l'aspect purement biologique, la protection du statut agricole saute. Le juge fait une pesée constante entre la nature et l'ingénierie humaine.
Ok, c'est rassurant. Alors, qu'il s'agisse de construire des bâtiments ou de gérer un parc animalier, tout repose in fine sur l'humain et sur les contrats de travail.
Oui, le droit social.
Quand une relation de travail se termine dans la douleur, le droit fiscal s'immisce dans les arcanes de la rupture conventionnelle.
Parce que toute somme versée lors de la rupture est, en principe, une rémunération imposable. Sauf exception, comme le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare un préjudice.
Et l'aspect fascinant, c'est l'intrusion du fisc dans les accords transactionnels à l'amiable.
Eh oui, souvent, employeurs et employés signent un accord pour éviter les prud'hommes. L'intitulé dit « indemnité globale et forfaitaire ». Sauf que le juge de l'impôt refuse cette étiquette. Il rouvre le dossier.
Il dissèque l'accord pour voir si la somme compense des heures sup impayées, par exemple.
Exactement. Si c'est le cas, elle sera taxée, peu importe son nom. Le magistrat fiscal est contraint d'endosser la robe du juge social pour qualifier l'impôt.
Et le summum, c'est le cas des salariés protégés, comme les syndicalistes. Si un patron signe un accord financier secret pour qu'il démissionne sans passer par l'inspection du travail,
la sanction est foudroyante. La transaction est frappée de nullité absolue d'ordre public. Le document disparaît juridiquement.
Et l'employé, qui pensait avoir un départ doré,
il doit restituer l'intégralité de l'indemnité à son employeur. Le droit fiscal refuse de valider un accord qui viole l'ordre public social. L'architecture légale fait bloc.
C'est terrible pour le salarié. Finalement, pour ceux qui nous écoutent, une conclusion s'impose au terme de cette analyse. Le droit fiscal n'est pas une liasse de feuilles de calcul. C'est un champ de distorsion de la réalité.
C'est un monde parallèle, oui.
Un monde où l'argent dans un tiroir appartient à un autre, où un mobilhome est un immeuble de pierre, où héberger son fils imprime des billets fictifs, et où la zoologie obéit aux législateurs.
Chaque décision montre cette volonté farouche de faire primer la substance économique sur la forme apparente, de capturer la vraie création de valeur.
Et cette capacité à tordre la réalité soulève une ultime pensée provocatrice pour notre audience quand on y réfléchit. Si des concepts comme le cycle biologique modifient la réalité aujourd'hui, que va-t-il se passer avec l'arrivée des nouvelles économies méta ?
Ah, la technologie !
Comment le fisc va-t-il qualifier le cycle de vie d'une intelligence artificielle qui génère des revenus seuls ? Faudra-t-il créer une biologie algorithmique ? Et un terrain purement virtuel à qui a pris d'or dans le métaverse ?
C'est de l'immobilier virtuel ou un meuble informatique ?
Exactement. Deviendra-t-il un immeuble soumis à la première taxe foncière numérique, exigeant de prouver ses diligences suffisantes pour le louer à un avatar ? Le droit fiscal n'a clairement pas fini de réinventer le monde. Une belle question à méditer pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration en profondeur et à très bientôt pour une nouvelle analyse.